Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous sommes toujours à votre service et merci de nous écouter partout où vous êtes, en République démocratique du Congo et même tous ceux qui nous écoutent en dehors de nos frontières nationales sur www.radiookapi.net. Vous êtes les bienvenus et merci à tous les internautes qui sont branchés sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Quelles sont les techniques de recherche d'emploi après l'université? Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au Centre des formations et des réconversions professionnelles, est notre invité. Alain Poutou, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs d'Okapi Service, surtout aux chercheurs d'emploi, demandeurs d'emploi, les étudiants finalistes et ceux qui sont en train de défendre ou de soutenir leurs travaux de fin d'études et mémoires de fin de cycle.
Bien, bienvenue dans ce magazine. Des questions et préoccupations, les standards sont déjà ouverts. Composez les 099-706-9941 pour vous inscrire et nous allons vous rappeler juste après pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Laissez aussi un commentaire sur la page Facebook du magazine Okapi Service d'Ebs Vita. Sur la mise en onde, Paul Badianyama s'occupe du direct sur les plateformes digitales du Radio Okapi. Tati Mapuku, Naomi Muto qui est à la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Et oui, nous allons parler à présent de la recherche, nous allons parler emploi, parce que l'emploi c'est un secteur crucial en République démocratique du Congo. Vous savez, de nombreux gradués et licenciés se retrouvent au chômage après avoir fêté leur diplôme, en fait, mais après, on se retrouve chômeur. L'administration publique ne publie presque pas les offres d'emploi. C'est plutôt du côté des entreprises privées et des ONG qu'on peut trouver quelques opportunités. Certaines de ces structures engagent sans pour autant publier les offres, d'autres les font juste par pure formalité. Et par ailleurs, la formation universitaire aussi ne répond pas toujours aux besoins du marché de l'emploi, ce qui disqualifie de nombreux chercheurs d'emploi. Face à toutes ces difficultés, quelles sont les techniques de recherche de travail au lendemain du parcours universitaire? Vous avez fini vos études. Maintenant, comment chercher? Quelles sont les techniques à appliquer pour trouver un boulot? Alain Poutou est expert en ressources humaines et formateur au centre des formations et des réconversions professionnelles. D'ailleurs, la fois passée, on a parlé de la réconversion professionnelle. Ça a intéressé beaucoup d'auditeurs et d'internautes. Alors, dites-nous aujourd'hui, après les études, on se retrouve au chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je félicite encore la Radio Okapi pour le travail que vous êtes en train de faire. Je peux vous assurer que après notre passage ici sur la reconversion professionnelle, nous avons été contactés, je peux vous assurer que presque dans toutes les 26 provinces de ces pays. Donc c'est par là que moi j'ai compris que le problème est tellement crucial et sérieux et qu'il faudrait
des gens. Et vous continuez à recevoir des appels.
Je vous dis que jusqu'à ce jour, et c'est pour cela que moi je félicite le travail que vous faites. Si au moins deux ou trois médias peuvent s'engager à faire le travail d'accompagnement que vous êtes en train de faire, je pense que c'est intéressant. Parce que tout le monde ne peut pas faire la politique. Il faut que chacun reste dans son domaine. C'est important. Vous êtes journaliste, vous devez réfléchir qu'est-ce qu'on peut porter comme contribution pour peut-être aider la population. Alors, vous parlez de comment trouver de l'emploi à la sortie de l'université. Monsieur le journaliste, il faudrait qu'on puisse un peu brosser les paysages d'emploi dans notre contexte. Nous sommes dans un contexte selon lequel c'est le secteur public qui est le patron de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'opportunités d'emploi dans le secteur public. Malheureusement, les mécanismes, les processus pour accéder à ces emplois dans le secteur public obéissent à des ramifications politiques. C'est-à-dire les quotas des partis politiques, la répartition des entreprises publiques, les portefeuilles ministériels est faite en tenant compte du poids politique. Donc ce qui fait que même les recrutements dans ces secteurs aussi obéissent à cette philosophie, c'est-à-dire les listes sont confectionnées dans des états-majors des partis politiques, on dépose, les gens sont embauchés, il y a des matricules qui sortent. Demain, si vous devenez un mandataire actif ou non actif dans une entreprise publique, vous serez obligé aussi de peser de votre poids pour faire embaucher les neveux, les nièces, voilà. Les cousins, les cousines, les nounous des enfants. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui fait en sorte que ceux qui ont été formés ont du mal à trouver facilement de l'emploi. Parce que, au fait, c'est comme une structure qui organise la formation, mais elle-même, peut-être, ne consomme pas les produits qu'elle devait, ses propres produits.
Oui.
Donc, voilà, c'est cela les problèmes qu'on a. Alors, là où il y a quand même la possibilité que les gens soient embauchés, facilement, sans avoir des ramifications politiques, sans que vous soyez coopté ou porté par un politique ou un politicien, ou que vous soyez dans un parti politique, c'est dans les secteurs privés. Dans ces secteurs privés-là, on a plus les organisations internationales, il faut qu'on se les dise, c'est au moins elles qui restent un tout petit peu cohérentes et objectives dans leur processus de recrutement. Nous avons aussi les secteurs, les multinationales, les entreprises privées. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que dans ces secteurs ici, le processus, la procédure, les exigences de leur recrutement semblent être supérieures au profil que les universités déversent sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a l'université qui forme, sans pour autant poser la question à celui qui doit recruter. Si c'est qu'elle déverse sur les marchés correspond aux besoins du secteur privé.
Oui.
Donc, alors que l'université est organisée par l'État, vous comprenez? C'est-à-dire, on comprend d'abord que la formation telle qu'elle a été conçue ou le système éducatif tel qu'il se présente, normalement, est inspiré de la volonté ou de besoins du secteur public. Voyez, mais par contre, on constate qu'il y a les secteurs privés qui publient des offres d'emploi. Malheureusement, ceux qui forment ne prennent pas le temps de se mettre autour d'une table avec ceux qui recrutent pour s'assurer
quels sont les profils qui sont plus recherchés. Comme ça, on va adapter nos
enseignements par rapport à ces besoins et par rapport à ce qu'on doit faire sur le terrain.
Oui.
Maintenant, les risques, c'est quoi, monsieur le journaliste? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, les gens fêtent les diplômes. Mais pourquoi fêter un diplôme sachant bien que je me retrouverai au chômage demain? C'est-à-dire, vous avez été collé samedi. Les soirs,
vous avez dansé,
vous êtes monté sur des véhicules à Longuinaye, on a organisé des fêtes au quartier, à la maison, avec un budget consistant, et le lundi, vous êtes déjà accueilli dans l'école du chômage. À quoi ça sert? Voyez, donc ça, ce sont des erreurs aussi que et les parents et les finalistes eux-mêmes commettent. Alors, maintenant, vous savez très bien que vous avez été formé par un système qui n'a pas interrogé. C'est lui qui doit vous recruter.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire, il faut éviter, monsieur le journaliste, que les auditeurs comprennent ce que nous sommes en train de faire ici. Éviter de chercher de l'emploi à la sortie de l'université. Vous allez perdre du temps pour rien. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont fini les études universitaires avec des brillants diplômes, mais ils sont au chômage, il y a de cela 3, 5, 6, voire même 10 ans.
Maintenant, pas... à quel moment il faut commencer à chercher l'emploi?
Non, l'emploi, il faudrait faire ceci. Je vous ai dit, le moment de chercher de l'emploi commence par le choix d'une filière à l'université. il faut bien choisir la filière d'études à l'université. Puisqu'on a affaire avec deux catégories de personnes. Il y en a qui doivent aller à l'université parce que nous sommes au mois de la rentrée académique, c'est au mois d'octobre. Alors, et au moins, ils vont échapper au crash parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour leur intérêt. Ils doivent faire très attention sur les choix des filières. C'est pas tout ce que vous voyez là comme filière qu'il faudra aller prendre l'inscription dans ces filières-là. Laissez ça comme tel. Vérifiez d'abord les besoins du marché, si ça correspond à ces différentes filières qui sont à l'université. Si vous trouvez qu'il y a des filières obsolètes, des filières qui n'ont rien à voir avec les besoins réels du marché de l'emploi, les besoins actuels, il ne faut pas perdre le temps d'aller s'inscrire dans ces filières-là. Maintenant, deuxième catégorie, c'est quoi? C'est ceux-là qui ont déjà fini. Ils avaient fait un mauvais choix. Il y avait eu un problème d'orientation lors du choix de la filière d'études à l'université.
C'est déjà consommé.
Maintenant, eux doivent développer, exploiter les plans B. Les plans B, c'est lesquels? C'est-à-dire, ce n'est pas à la sortie de l'université qu'il faut chercher de l'emploi. Vous avez fini, par exemple, on vous a collé un samedi. C'est très important, vous glorifiez l'Éternel. Ne faut pas organiser la fête. Achetez juste peut-être un casier de sucré, partagez à la maison, mais n'organisez pas la fête. Gardez cet argent-là pour les différentes étapes que je vais vous démontrer ici. Alors, vous terminez les études le samedi, par exemple. Le lundi, vous pouvez vous reposer. Maintenant, à partir de mercredi ou de mardi, vous devez commencer ce qu'on appelle la première étape, c'est la cartographie du marché de l'emploi. Donc ça, c'est la première étape.
Cartographie.
Il faut faire la cartographie du marché des emplois, c'est-à-dire identifier les recruteurs, les opportunités du marché qui reviennent souvent et leurs exigences. Donc, vous devez déjà avoir une idée claire de quels sont les postes qui reviennent souvent. À chaque fois que je consulte les offres d'emploi, je trouve quel poste. Il faut les identifier.
Et où trouver ces offres-là?
Il faut les identifier parce qu'ici, on parle de la loi des 555. C'est-à-dire une loi qui voudra ce que vous puissiez identifier les intitulés des 5 postes qui reviennent souvent dans les offres d'emploi et que ça soit les offres publiées par 5 différentes entreprises ou 5 différentes organisations. Et pour chaque poste, cherchez à imprimer ou à récolter 5 offres, c'est-à-dire 5 offres du même poste publiées par 5 différentes entreprises ou 5 différentes organisations. C'est ce qu'on appelle la loi des 555. Donc ça, c'est dans la première étape de la cartographie du marché de l'emploi, c'est-à-dire les opportunités, les recruteurs et les exigences. Ça, c'est important. Alors, une fois que vous avez ça, par exemple, vous avez suivi évaluation, vous avez gestionnaire de projet, vous avez
chargé
de la logistique, assistant administratif, assistant financier et comptable, bon, ça vous fait 5. Voyez?
Et c'est maintenant, ça qui revient souvent.
C'est ce qui revient souvent. Maintenant, la question, ces 5 titres de postes qui reviennent souvent sont souvent publiés par quelle organisation? Quelles sont les entreprises
qui
ou les ONG
souvent.
Qui les publient souvent? Vous les identifiez aussi. Après, ces organisations sont dans quel secteur d'activité? Quels sont leurs domaines d'intervention? Ça, il faut connaître. Maintenant, aussi les exigences. Quand on parle d'un logisticien, il fait quoi? Et quelles sont les exigences pour postuler ou pour être logisticien? Ici, dans les exigences, on fait référence d'abord, aux années d'expérience. Ça, en tout cas, il ne faut même pas s'écarter. Vous allez toujours trouver
les années
9
d'expérience.
Offres sur 10. On va vous demander toujours d'avoir 2 à 5 ans d'expérience. Une autre exigence.
C'est ça qui embête beaucoup les jeunes.
Hein. Oui, mais il y a une possibilité sur comment contourner les années d'expérience. Ça, je vais expliquer ça
d'accord.
plus loin.
Okay.
Alors, il y a aussi les compétences techniques, c'est-à-dire les habiletés, les savoir-faire qu'une personne devait avoir. Vous voyez? Alors, aussi, comment postuler? C'est-à-dire, ils expliquent que la personne qui est intéressée devait soumettre son dossier de candidature composé de tel document. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous, après avoir fait cette cartographie, la deuxième étape, c'est de faire la comparaison entre les exigences de chaque profil et votre formation académique. Vous voyez? Alors, si ce que vous avez appris à l'université ne vous permet pas de répondre au profil recherché par les recruteurs, vous devez aussi maintenant, à la troisième étape, monsieur le journaliste, noter les compétences que vous possédez et les compétences que vous ne possédez pas par rapport à la cartographie que vous venez de faire. Vous voyez? Ça, c'est très important. Alors, une fois que vous avez identifier les compétences que vous possédez et celles que vous ne possédez pas par rapport à ces 5 titres de poste qui reviennent souvent, Vous allez maintenant passer à ce qu'on appelle la loi de la reconversion professionnelle, qu'on a expliqué avec vous la fois passée. C'est-à-dire, cette loi consiste à acquérir des compétences techniques, des compétences supplémentaires aux compétences recherchées par les recruteurs. Et que ça soit des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait comme étude faite, mais ce sont des compétences en rapport avec les exigences du marché de l'emploi. Mmh. Vous voyez. Alors, la recherche d'emploi en ce moment-là devait commencer après la reconversion professionnelle. Donc, tant que vous n'avez pas encore fait la reconversion professionnelle, vous ne pouvez pas immédiatement postuler puisque vous avez vu une offre d'emploi. Ça, c'est important. Et aussi, lorsque la personne est en face d'une offre d'emploi, monsieur le journaliste, il y a des éléments essentiels qu'il faut regarder dans l'offre. Beaucoup fixent leur regard sur les diplômes qui est exigé par les recruteurs. Par exemple, on a besoin d'un diplôme en économie et la personne a fini en économie, elle croit que c'est elle qu'on cherche. Alors, si une personne a fini en droit, mais que dans l'offre, on a besoin d'un diplôme en sciences commerciales et financières, celui-ci dira que ce n'est pas mon domaine. Vous voyez? Alors, les gens confondent. Les diplômes, c'est ce qu'on appelle la qualification. Ça n'a rien à voir avec les compétences. Ça n'a rien à voir avec de l'expérience.
Donc on doit arrêter de trop se focaliser sur les diplômes.
Mais monsieur le journaliste, un recruteur sérieux ne recrute pas les diplômes. Un recruteur sérieux recrute les compétences. On ne recrute pas les diplômes. Les diplômes, c'est la qualification. Ça n'a rien à voir avec les compétences. Parce que ce n'est pas à l'université qu'on va vous apprendre, par exemple, comment on fait la réconciliation de la caisse, comment on passe les écritures comptables. On va vous parler des en théorie, mais ce n'est pas par rapport à ce qui s'est fait sur terrain. Donc, le plus important, une fois que la personne a décroché son diplôme universitaire, que ce soit un diplôme de graduat ou de licence, la personne devait prendre la température du marché de l'emploi.
Donc, la cartographie est quelque chose du marché de l'emploi indispensable.
Indispensable, cette cartographie.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne, Dieu merci, Elenga de Kisangani et Robert Adjoku de Bounia. Dieu merci, bonjour.
Bonjour à Dieu Capi, bonjour à l'autre invité.
Quelle est votre question, Dieu merci Elenga? Merci de réduire le volume de votre radio. Vous allez sur un petit téléphone.
Ah oui, merci beaucoup. Avant d'y arriver dans la question, je voulais d'abord apporter une contribution par rapport aux demandeurs d'emploi. Nous les conseillons d'abord qu'ils acceptent d'abord les bénévolats dans le secteur public et tout comme privé, ou de commencer d'abord à se donner des compétences de base en informatique. Car aujourd'hui, il y a certains cabinets pour recruter, ils proposent trois tests. Il y a le test écrit, oral et test informatique. Et le dernier test informatique, c'est là où ça bloque beaucoup de gens. Quelqu'un peut avoir la matière, il a bien défendu, mais il arrive à l'informatique, il ne connaît ni où commencer. Alors qu'aujourd'hui, dans le travail, tout s'est fait à base de l'outil informatique. Il faut maîtriser bien l'Excel pour rédiger des rapports de consorts. Maintenant, pour la question, je voudrais que l'invité puisse me faire une différence entre la reconversion professionnelle et la mobilité professionnelle.
Bien, merci. Reconversion professionnelle et mobilité, quelle est la différence? Robert Adjoku, bonjour. Bonjour, Robert Adjoku.
De cohésion nationale. Félicitations pour l'intervenant. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de savants dans notre pays. Dans le cadre de projections d'avenir, qu'est-ce que l'invité peut conseiller aux jeunes en termes de projections d'avenir? Parce que le présent et l'avenir doivent se préparer. Les jeunes doivent plus se focaliser sur quel secteur en termes de formation, en termes de vision, pour le développement holistique de notre pays. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a possibilité de mettre ce syllabus et cette réflexion à la disposition des universités, surtout de la jeunesse, pour que les jeunes soient orientés? Vraiment, c'est un secteur nouveau pour moi, je suis agréablement surpris
d'entendre ces choses-là. D'accord, merci beaucoup Robert. Joseph Delicacy, bonjour. Bonjour Joseph.
Bonjour à tous.
Oui, nous parlons emploi, comment les techniques de recherche d'emploi après l'université. Quelle est votre question là-dessus?
J'ai une petite question. Le problème de l'emploi digital, la vie quotidienne de nos vies, nous Congolais. Et en tout cas, un petit question de celle-ci. Est-ce qu'il est capable de nous donner tout le monde qui a visité l'emploi? Je ne sais pas, je ne crois pas. Bon, beaucoup de l'emploi vient de l'informel. Beaucoup de l'emploi est informel, hein, et là, il y a beaucoup de irrégularités. Est-ce que nous allons connaître l'endroit où l'homme qui se l'université à l'être présenté direct à la matière de l'emploi? Merci et je vous remercie.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Alain Poutou, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par répondre à monsieur Joseph par rapport à sa question. En fait, tout est parti, comme je vous ai dit au départ, hein, du système éducatif, de comment est-ce que les enseignements sont organisés. Pourquoi est-ce que les gens se déversent plus à l'informel? Mais parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi formel, qu'on ne se voile pas la face. Tous ceux qui sont en train de conduire des motos, ceux qui font les taxis, ceux qui font dans font les maléwa qui sont
certains
dans
certains ont étudié, voilà, ils ont des diplômes de licence.
Ils ont des diplômes de licence, ils les font, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi formel, qu'on se le dise. Oui. Alors, au lieu de croiser les bras, les gens trouvent des solutions palliatives ou alternatives en attendant
dans que l'informel.
Voilà, les emplois formels se présentent. Et je vous ai dit que là où il y a plus d'emplois, c'est dans les secteurs publics. Mais
l'État,
malheureusement,
l'État congolais n'engage pas.
Bon, non, l'État congolais engage, monsieur le journaliste.
Mais on n'a jamais vu les offres.
Mais non, mais les gens sont embauchés. Il y a des fonctionnaires de l'État, il y a des gens qui sont immatriculés, il y a des gens qui sont mécanisés.
Sans offre d'emploi, bon, les gens
se fait,
retrouvent là.
Mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'est difficile d'opiner là-dessus. En fait, c'est comme ça.
Et vous avez parlé de la politique qui s'invite partout.
Je vous ai dit, mais
voilà.
Est-ce que vous avez déjà vu une offre d'emploi pour devenir ministre?
Ah non,
ça. Voilà, ou pour devenir mandataire. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Je pense que même partout aussi, hein, c'est pas qu'ici.
C'est pas qu'ici, donc
voilà.
C'est comme ça.
C'est comme ça la politique, alors. Oui. Maintenant, il faudrait pas que les gens restent sur ça.
Sur
pourquoi
ça, voilà.
Parce que,
on a trouvé d'autres alternatives.
Si vous n'avez pas des ramifications en politique, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous n'allez
plus
travailler.
Plus travailler dans... voilà.
Non mais laissez les politiciens faire leur travail, conseillons-le pour qu'ils puissent mettre en place des réformes qui vont aider le pays. Mais si vous n'avez pas des ramifications, il y a un autre secteur. On parle ici du secteur privé, on parle des organisations.
Des ONG,
internes. Mais
tout ça.
Moi qui vous parle ici, est-ce que j'ai déjà travaillé chez l'État? Non. Ma carrière, pendant 15 ans, j'ai travaillé plus dans les organisations internationales, sachant bien que je ne suis pas quelqu'un qui doit me porter. J'ai fait un effort de développer mes compétences par rapport aux besoins réels du marché de l'emploi.
Et vous avez parlé de la cartographie.
Mais c'est important, parce qu'en fait, hein, l'université ne forme pas les étudiants sur comment intégrer le marché de l'emploi. L'université donne une formation globale, c'est-à-dire on vous forme comme si on est dans une moule, mais quand vous terminez, ça c'est votre propre problème.
On ne vous apprend pas à faire le CV, la lettre de motivation,
pas du tout,
rien
pas du tout.
Tout.
Pas du tout. Alors que vous êtes appelé à aller travailler. Moi je pense, hein, au lieu que les gens puissent passer tout le temps en train de tirer sur l'État, tirer sur le gouvernement. Moi,
en tant qu'expert,
je préfère, monsieur le journaliste, d'être pragmatique.
Oui.
Je n'ai pas des ramifications en politique. Ni mon père, ni ma mère, ni un cousin, ni un frère est en politique. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux exploiter comme plan B? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Vous voyez? Donc, il faut la cartographie. Parce que je vais vous dire une chose. Même ceux qui disent qu'ils cherchent de l'emploi, mais est-ce qu'ils savent où se trouvent les offres d'emploi?
Quelqu'un a écrit combien de personnes ont trouvé de l'emploi après avoir suivi vos formations, les formations que vous donnez?
Ah, mais je vous dis, il y a plusieurs témoignages. Plusieurs alors. Parce que le problème, c'est quoi? Monsieur le journaliste, il faut dire aux gens la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. Le problème, c'est que vous terminez les études, on doit vous préparer sur comment intégrer les marchés de l'emploi.
Alors là, vous avez dit la première étape, il faut commencer par faire la cartographie des offres disponibles.
Disponibles, leurs exigences et les recruteurs. C'est important.
Et vous avez parlé de la loi
de 555. Parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, lorsque vous avez un diplôme, par exemple, en comptabilité, obtenu à l'Institut supérieur de commerce, et que vous devez aller travailler quelque part, on a besoin d'un caissier ou d'un comptable. Vous connaissez la comptabilité académique, la comptabilité scientifique. Mais la comptabilité pratique telle que ça s'est fait sur le terrain, la vérification des pièces justificatives, les classements, l'enregistrement...
Les bilans, les passifs actifs...
Ça, c'est pas en université qu'on apprend ça. Raison pour laquelle on insiste sur les compétences technique et opérationnel qu'il faut acquérir avant d'aller chercher de l'emploi. Vous faites la cartographie.
Et ça passe par les stages. Il semble que c'est au travers des stages académiques qu'on peut connaître
ça. Vous savez qu'il y a même des universités qui organisent ce qu'ils appellent maintenant les stages bloqués. C'est-à-dire vous cherchez là où il faut passer les stages. Dans une entreprise, vous n'en trouvez pas. On vous met dans un auditoire. Les gens viennent vous donner des séminaires. Il y a même...
C'est ça, ils appellent ça stages bloqués.
Et encore, on demande aux étudiants de payer.
De payer pour les stages bloqués.
De payer pour les stages bloqués.
C'est combien?
Alors, attendez, chaque institution...
A son prix.
Moi,
hein.
J'ai des neveux pour qui j'ai payé les Minervan, mais une fois, je suis allé poser la question, j'ai dit, mais quelle différence faites-vous entre les stages d'orientation, les stages professionnels et les stages d'imprégnation? Vous voyez, c'est-à-dire, le problème, c'est celui-là. Vous voyez, même il y a même d'autres entreprises, excusez-moi, que j'ai... traite un peu de méchantes qui reçoivent les stagiaires, ils leur apprennent pas le travail, ils les envoient
acheter des bananes, des arachides,
aller faire des photocopies, va voir si la maman là qui fait les malais ou a fini, et puis à la fin, ils vont chercher un exemplaire d'un rapport de tes prédécesseurs qui sont passés par la même entreprise.
Un faux rapport pour
vous aider à copier ces rapports là et à déposer. Or, les stages devraient être un moment pour permettre à la personne d'apprendre ce qui est pratique.
On va accueillir Aloïs depuis Louisa, dans le Kassai Central. Ruffin Bonsoy est à Likassi. Et puis Roger Marcel à Kananga. Bien, Aloïs de Louisa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama. Je salue vraiment avec joie l'invité qui est sur le plateau. Pour ces interventions combien pertinentes.
Merci. Ok.
Oui, j'appuie l'invité qui a évoqué tout à l'heure l'inadéquation entre les besoins réels du marché d'emploi et la grille programme d'études proposée par nos universités. Ah, déjà là, on comprend que l'invité touche l'origine du problème lié au grand fléau qui mine notre pays. Donc, le chômage. Il a parlé de la reconversion professionnelle. Ça, c'est très important, mais ce qui tue beaucoup, c'est la folie de grandeur ou le complexe de supériorité. Avec nos diplômes des universités, il y en a qui pensent qu'après ces diplômes-là, c'est fini, c'est la vie qui est gagnée, alors que la réalité est ailleurs. Mais ma préoccupation était celle de savoir si l'invité a une structure de coaching à travers laquelle nous pouvons orienter certains jeunes qui traversent des situations de chômage, peut-être parce que, bon, c'est la première fois que nous découvrons à travers la radio Capi, merci pour le travail que vous effectuez, que nous découvrons l'invité pour nous autres qui sommes dans le Congo profond. Est-ce qu'il a une structure de coaching à travers laquelle on peut lui déverser certains jeunes? Merci.
Bien, monsieur Alain, il va répondre tout à l'heure. Ruffin Bonsoy, vous êtes à Likassi, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup, monsieur Jody Kachama. Ainsi, nous disons bonjour à l'invité du jour pour les sujets très pertinents de la société congolaise en général. Pour moi, j'aimerais juste intervenir en disant, aujourd'hui, bien sûr, puisque l'invité est en train de parler comme technique, il est en train de donner tout d'abord aux intellectuels, c'est bien, mais nous connaissons très bien qu'il y a un empêchement pour avoir de l'emploi. Là-bas, nous sommes en train de constater qu'il y a aujourd'hui le système des poids politiques. Premièrement, pour avoir de l'emploi, il faut passer par la politique. Ainsi, deuxièmement, il y a ce que je suis en train de qualifier comme les poids spirituels. Donc, il faut savoir l'église, moi je ne sais pas, d'un ministre, d'un député, voire même d'un gouverneur dans laquelle tu vas commencer à prier Dieu. Et lorsqu'il y aurait, moi je ne sais pas, des opportunités, le gouverneur va vous appeler que non, comme si vous êtes de mon église, il ne faut pas, moi je ne sais pas, mourir de la chômage comme ça.
Oui. Et donc il faut aller prier à l'église du ministre qui peut vous engager. Ben, c'est pas tout le monde qui va aller à l'église du ministre en question. Voilà. Merci d'avoir appelé Ruffin. Bonsoir. Roger Marcel de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question par rapport à la recherche de l'emploi?
Oui, je pense que dans le secteur d'emploi, c'est l'État congolais qui pouvait bien faire pour que les gens qui quittent l'université puissent aussi s'y retrouver. Parce que si vous regardez sur les 55 ministères ou bien 56, si l'État travaillait beaucoup sur ça, on pouvait quand même engager les gens ou bien les jeunes qui quittent vraiment aujourd'hui l'université. Souvent, j'ai toujours aimé les interventions de notre invité. Mais si nous partons dans les secteurs privés, vous allez voir que c'est comme si les gens qui cherchent à faire engager les gens là n'ont pas vraiment la volonté. Comment vous pouvez demander à une personne qui a fini d'université, peut-être une année ou bien deux ans,
5 ans d'expérience,
pour être engagé, il faut avoir fait 5 ans d'expérience. Parce qu'il y a même des sites des emplois. Lorsque vous entrez là,
oui,
aujourd'hui, ces derniers temps, il faut au moins faire l'informatique, connaître l'outil informatique. Peut-être en Excel, il y a plusieurs vraiment domaines. Mais on vous demande peut-être, vous, que vous avez fini peut-être en droit. Vous avez fini peut-être dans d'autres facultés. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de faire un peu l'informatique, de connaître un peu l'outil informatique. Mais dans ce qu'on a demandé, on vous a dit il faut connaître un peu l'outil informatique, il faut connaître l'anglais, il faut mieux maîtriser aussi le français. Il faut avoir aussi la carte de je ne sais pas, on aime. Si vous voulez déposer votre demande, que la carte on aime ne manque pas. Et puis si vous avez travaillé, il faut aussi mentionner aussi des personnes de référence. Vous demandez, quand on vous demande tout ça, donc vous dites non, ces gens ici n'ont pas vraiment l'envie de vous recruter. Ils ont cherché quand même l'envie de mettre seulement des demandes d'emploi, mais en réalité...
Ils n'ont pas envie de vous recruter. Avec toutes ces exigences-là, d'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé depuis Kananga. Henri, pardon, j'allais dire Henri. Alain Poutou, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Voilà, donc, vous comprenez que c'est vraiment un sérieux problème, hein. Les gens souffrent, les gens sont au chômage, c'est vraiment un problème sérieux. En fait, moi j'ai toujours dit les responsabilités sont partagées, hein, pour vraiment qu'on soit sincère. Il y a la part de l'État, ça c'est vrai, on ne doit pas béatifier l'État parce que c'est l'État qui est le patron même du système éducatif. Je vous ai dit ici que le patron de l'emploi dans un pays, c'est l'État.
C'est l'État.
Et si vous regardez très bien, les gros des emplois qu'on a ici, c'est l'État. Si vous comptez le nombre de fonctionnaires de l'État, vous comparez ça au secteur privé, vous trouverez que c'est vraiment l'État qui a plus d'employés, vous comprenez? Mais simplement, nous sommes en train un tout petit peu de décrier les systèmes, en fait, pour accéder à ces emplois chez l'État. C'est là qu'on dit... Ça obéit à des critères, excusez-moi, qui ne sont pas totalement transparents. Voyez. Alors, on devait quand même rentrer dans le système, par exemple, des concours, que les gens essayent un peu de compétir.
De donner la chance à tout le monde.
Donner la chance à tout le monde. Oui. Mais ça dit, ce qu'on fait, c'est qu'on peut organiser ça pour quelques ministères ou quelques entreprises, mais les gros sont des gens qui sont recrutés chez l'État par un circuit totalement fermé.
Vous avez dit qu'il y a la part de l'État, mais il y a aussi des efforts au niveau personnel.
Il y a la part de l'État, il y a la part des parents, c'est eux qui envoient les enfants à l'université. Il y a la part aussi de l'université qui ne fait pas des efforts de s'informer par rapport à la réalité du terrain. Moi, je vous ai dit, il y a parfois des cours. Vous regardez les cours, vous êtes étudiant en marketing ou en comptabilité. Mais vous avez certains cours, vous posez la question, mais qu'est-ce que ces cours ici,
qu'est-ce que ça vient faire?
Ça vient faire ici. Est-ce que ça correspond à ce que moi je veux devenir? Est-ce que ça correspond au profil? Alors, il y a aussi la part de l'universitaire lui-même. Il y a un auditeur, Monsieur Ruffin, je crois bien, qui a même dit qu'on doit faire un effort de nous décomplexer un peu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement contents, ils célèbrent, ils sont en train de vénérer les diplômes, en lieu et place de vénérer les compétences. Mmh. Vous voyez ?
Ils aiment les titres.
Hein. Les gens aiment des titres, gradués, licenciés, master, docteur, maître, ingénieur, alors que vous êtes au chômage. Oui. Alors, les gens devraient faire un effort, en tout cas d'être sincères.
Moi, alors, quelqu'un a dit, il a posé la question, non, c'était une proposition, il propose pour ceux qui sont au chômage de faire des bénévolats, par exemple en informatique, parce que la plupart des recruteurs exigent, il faut connaître l'informatique,
mais ça faisait
l'anglais.
Partie, ça faisait partie des étapes de la recherche d'emploi. Okay. Je vous ai dit, la première étape consistait d'abord, vous avez votre diplôme universitaire, vous avez obtenu vous avez votre qualification, ça peut être les graduats, ça peut être la licence, mais la deuxième étape, c'est-à-dire, il faut faire la cartographie. Mais quand j'étais termine mes études universitaires, je dois aller me vendre chez qui? Qui a besoin de ma qualification? Oui. Quelles sont les opportunités qui sont sur le marché de l'emploi? On recrute dans quoi? On a besoin des mobilisateurs communautaires, des spécialistes en passation de marché, des chargés de suivi évaluation, des gestionnaires de projets, des responsables des ressources humaines, des assistants administratifs, des caissiers, des comptables.
Par exemple, celui qui est à Louisa, il doit voir dans son...
Mais
à Louisa,
important.
Quelles sont les structures
non
qui recrutent
seulement, souvent. Non seulement à Louisa, il doit regarder
partout.
Parce
en
que,
RDC.
Regardez un peu, monsieur le journaliste, je peux vous donner un exemple. La plus grande base humanitaire au pays, dans notre pays ici, c'est quoi? C'est l'Est, je prends Goma. Après, il y a Ituri. Mais vous êtes à Kinshasa, vous cherchez de l'emploi. S'il y a un poste à Bounia, pourquoi ne pas aller? Allez-y d'abord, travailler. Peut-être plus tard, vous allez trouver une autre opportunité ici à Kinshasa qui peut faire à ce que vous puissiez revenir ici. Donc, vous voyez. Donc, il faut d'abord faire la cartographie. Après la cartographie, il y a ce qu'on appelle l'acquisition des compétences adéquates au profil recherché par les marchés de l'emploi. C'est là que nous avons mis l'accent la fois passée sur la reconversion. Pourquoi? Parce que qu'on ne se trompe pas. À quoi ça sert de passer 5-10 ans en train de chercher un poste qui correspond aux études faites alors que les besoins du marché de l'emploi sont ailleurs? Donc il faut acquérir des compétences adéquate au profil recherché par les recruteurs.
Et ça passe par des formations.
Ça passe par des formations.
Oui.
Prenons le cas d'une personne qui a un diplôme de licence, mais il ne sait pas utiliser l'ordinateur. Mais à l'époque, on vous recrute, on recrutait les secrétaires. Mais aujourd'hui, même vous-même, journaliste que vous êtes, pour préparer cette émission, je pense que c'est vous-même qui avez fait la saisie, vous avez fait la mise en forme, vous avez imprimé. Est-ce qu'il y a un secrétaire ici? Non. Donc ça signifie que la personne doit d'abord s'équiper avant, en termes de compétences. La personne doit s'assurer qu'il a, elle a un profil qui correspond au profil recherché par les marchés de l'emploi, en termes de compétences, en termes d'exigences de savoir-faire. Donc, vous faites l'informatique, vous faites des formations professionnelles en rapport avec les offres d'emploi, et puis il y a ce qu'on appelle la loi des 50 sur 180. C'est-à-dire quoi? Vous devez vous rassurer, après la reconversion, d'avoir soumis au minimum 50 candidatures sur 160 jours.
Ah ouais?
Donc, oui, mais c'est ce qu'on appelle aussi la loi de la détermination. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche de l'emploi, dans le marketing personnel, on insiste sur la concentration. C'est-à-dire, quelqu'un qui postule aujourd'hui, croise les bras, il attend 2-3 semaines pour postuler encore. Non, normalement, dans 6 mois après la reconversion professionnelle, vous devez vous assurer d'avoir postulé au minimum 50 fois.
Au minimum.
Mais oui, mais tout à fait. Trouver de l'emploi, ce n'est pas de la blague. Ça nécessite
la détermination.
Un matraquage. Vous voyez, ça c'est important. Il faut être
déterminé.
Mais il faut que les gens retiennent ça.
Il faut avoir déposé au moins 50 candidatures.
Oui, sur une période de 6 mois, à condition que vous ayez acquis des compétences techniques en rapport avec les opportunités du marché de l'emploi. Il y a aussi la loi du volontariat. C'est-à-dire, puisqu'il y aura la question des années d'expérience, on ne peut pas avoir des années d'expérience à la sortie de l'université. Non.
Ça, c'est
et
sûr.
Personne n'est né avec l'expérience professionnelle. On l'acquiert. Donc, les gens doivent développer la loi du volontariat. C'est-à-dire, aller quelque part là où on vous apprend les métiers, même si on ne vous paye pas.
Sans exiger l'argent.
Mais l'argent, vous allez l'exiger après. C'est pas au début. Au début, d'abord, il faut avoir un profil. Vous allez solliciter des stages.
Oh, aujourd'hui, il y a des jeunes, quand ils viennent, tout de suite, il faut me payer.
Mais
il faut de l'argent.
C'est l'université qui les a induits en erreur en les faisant croire que ce sont des futurs cadres. Quand eux, ils viennent dans la vie professionnelle, ils viennent déjà avec la posture d'un futur cadre. Alors qu'il n'a que des compétences scientifiques universitaire mais n'a pas de compétences pratiques et techniques. Donc, les gens doivent aussi solliciter plusieurs stages, ce qu'on appelle dans la reconversion professionnelle les stages de complément de formation. C'est-à-dire une personne qui vient qui vous dit, monsieur Jody, je voudrais que vous puissiez m'apprendre dans l'État les métiers d'un journaliste. J'ai fini à l'IFASIC, j'ai fini à l'UPN, j'ai fini à l'Université de Kinshasa en communication, mais j'ai besoin que vous, monsieur Jody, avec votre riche expérience dans les médias, en journalisme, que vous puissiez m'apprendre comment devenir un journaliste technicien de terrain. Voyez, ça fait partie de la loi du volontariat. Oui. Tout ça vous permet d'avoir un CV équilibré. Et les gens doivent aussi savoir comment rédiger les bons CV et une lettre de motivation. C'est important parce que pour être en contact avec les recruteurs, lui, publie l'offre sur Media Congo ou dans d'autres sites internet, site Radio internet, Capi. Oui. Maintenant, vous devez rédiger votre CV et votre lettre de motivation qui doit être conforme à la philosophie de l'offre. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à chaque profil correspond son CV.
Donc on ne peut pas avoir un CV standard.
Toutes
les offres qui arrivent, on envoie le
même
CV.
Non, ça n'existe pas. Oui. Les CV de logistique ne doit pas être les CV pour les postes d'un comptable. Les CV du poste d'un comptable ne doit pas être les mêmes CV lorsqu'on doit postuler pour les postes de suivi et évaluation. Prenons par exemple les cas des gens qui ont fini en médecine, les gens qui ont fini en santé communautaire, les gens qui ont fini en sciences infirmières, par exemple. Ces gens-là, monsieur le journaliste, excusez-moi de le dire dans ce sens, s'ils ne font pas attention, mais ils vont toujours continuer d'être au chômage.
Pourquoi ?
Mais parce que les gens doivent comprendre. Regardez, leurs collègues qui sont dans des organisations internationales, les médecins...
qui font la santé publique.
Qui travaillent dans des ONG. Mais ils ne font pas la clinique. Ils sont dans l'administration des programmes, l'administration des projets. Mais est-ce qu'aux facultés de médecine, il y a un cours de gestion des projets ? Il y a un cours de suivi évaluation. Peut-être ceux qui ont l'argent, ils vont aller faire la santé publique. Mais pourquoi les gens qui finissent en médecine, en attendant leur affectation, en attendant qu'ils soient mécanisés, pourquoi ils ne peuvent pas suivre des formations en suivi évaluation des projets? Pourquoi ils ne peuvent pas suivre des formations en assistant au programme ou en gestion des projets? Donc, il faut que les gens développent la culture des formations. C'est très important. Pourquoi? Parce que au-delà de nos capacités scientifiques, académiques, on a besoin des compétences professionnelles, des compétences techniques. Et ce n'est pas à l'université qu'on peut
acquérir tout cela. Un instant, on va accueillir Papi Mboyo de Mandaka et Blaise Saïdi de Kisangani. Papi, bonjour. Bonjour, Papi Mboyo. Allô? Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour. Allô, Blaise?
Allô.
On vous écoute, Blaise.
Voilà. Merci. Alain Poutou avec quelques commentaires. Je dois aller tout juste à quelques préoccupations. La première préoccupation, quelle est la politique publique qui pourrait être mise en place pour faciliter la transition entre les études universitaires et les premiers emplois? La seconde question, quelles sont les principales erreurs commises par les jeunes diplômés dans les recherches d'emploi et comment les éviter? La troisième question pour Chité, quel rôle les universités et les études supérieures devraient-ils jouer pour accompagner les étudiants après l'obtention de leur diplôme? Je m'invite à ces trois questions, cher Jody.
Bien, merci. Papi Mboyo, vous êtes là, depuis Mbandaka? Allô? Papi Mboyo n'est plus là. Bien, monsieur Alain Poutou.
Oui, alors, il y a monsieur Blaise Saïdi qui a posé la question, quelle politique publique? Malheureusement, moi je ne parle pas au nom de l'État. Je ne suis ni mandataire, ni ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ni le ministre de la formation professionnelle.
Ni secrétaire général.
Non, moi je suis un expert, je suis un technicien. Je ne suis pas en politique, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Peut-être qu'il s'adresse à qui de droit, ça c'est important, mais au moins je peux les rassurer, parce que moi je m'en tiens à ce que je vois. Les chefs de l'État, oui. Avec le gouvernement de Mme Judith Suminwa, ils ont parlé de la création de 6 millions d'emplois. C'est-à-dire, moi je reste formel, le chef de l'État tient à tout prix que les taux du chômage puisse baisser et que les emplois soient créés. Alors, il ne faut pas demander au chef de l'État qu'est-ce que vous allez faire pour que ces emplois soient créés. Non, c'est-à-dire, la constitution de ces pays est claire. chaque Congolais peut aussi apporter son expertise pour faire avancer le pays. C'est que vous, la Radio Okapi, vous faites. Moi, ce que je suis en train de faire ici, c'est un apostolat, mais c'est aussi notre contribution pour permettre à la nation d'avancer. Maintenant, à ceux-là qui sont en politique, les mandataires qui recrutent les gens de leur parti politique, de leur obédience, moi je pense qu'il faut qu'on décourage ça. C'est pas une pratique à encourager. Donnons la chance à tout le monde que les gens poursuivent. Développons la méritocratie. Évitez ces histoires de recommandations. Les listes sont confectionnées quelque part. On vient, on immatricule les gens. C'est comme une blague qu'on a vue dans un groupe où quelqu'un remercie un directeur général d'une entreprise qui
pour vient l'avoir
recruté. Non mais franchement, mais c'est étonnant. J'ai même suivi dans une chaîne de télévision ici où le patron de cette chaîne de télévision est en train de parler des cas d'une entreprise publique où les PCA et les DG sont en train d'attribuer des grades aux... Donc c'est vraiment une pratique qu'il faut décourager. Maintenant nous on doit rester professionnels. Alors monsieur Blaise toujours a posé la question, les erreurs qu'on commise beaucoup de jeunes universités dans la recherche d'emploi. Oui, la première erreur, c'est le fait de s'accrocher qu'à des postes qui correspondent aux études faites. Ça, c'est une grosse erreur. La deuxième erreur, c'est le fait d'écarter la loi du volontariat. C'est-à-dire, on sort de l'université, on est déjà dans...
On veut tout de suite gagner de l'argent.
C'est
ça.
C'est comme quelqu'un qui finit en droit... Il veut déjà qu'on l'embauche comme un conseiller juridique alors qu'il n'a jamais été au barreau. Il n'a jamais travaillé même comme assistant au département juridique. Mais du coup, il sort de l'université, on les pompe là directeur.
Il se considère déjà comme un cadre.
Mais il se trompe. Alors, les universités aussi, leur part c'est quoi? Moi, je souhaite que les universités... De la même manière que ceux qui finissent à l'université font la cartographie du marché, que les universités aussi en fassent la même chose. C'est-à-dire que les universités essayent un peu de faire des descentes au sein des entreprises.
D'être en contact avec les
connaître les réalités des entreprises et adapter leurs enseignements par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Les services là, comment vous appelez ça, les services, c'est des guidances ou d'orientation. Mais c'est un service qui est resté que des noms. En réalité, il n'y a pas de contenu. Moi, je suis dans la vie professionnelle, monsieur le journaliste, depuis 2006. Je n'ai jamais vu. De toutes les entreprises, les organisations où je suis passé, en aucun jour, j'ai vu un conseiller en guidance ou en orientation professionnelle venir me poser moi la question, monsieur le directeur des ressources humaines, quels sont les profils pour lesquels vous recrutez des gens, ou même venir solliciter des entreprises pour organiser des portes ouvertes dans des universités. Ça, c'est quelque chose, monsieur le journaliste, que vous aussi, vous pouvez voir dans quelle mesure organiser ces genres d'émissions, que ça soit organisé dans des universités, pour sensibiliser les étudiants, les éveiller, les apprendre comment on fait la recherche d'emploi. Alors,
ça dit ça un instant, on va accueillir Papi Mboyo, et puis Eminent Mwanda. Papi Mboyo est en Bandaka, et ensuite Eminent de Bukavu. Papi, bonjour. Papi Mboyo, vous êtes là?
Je suis là, je vous écoute. Bonjour, monsieur Jody.
Bonjour, papy Mboyo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Vous m'entendez maintenant?
Oui, 5 sur 5.
Merci beaucoup. Je disais merci à l'invité et aussi bonjour à tous les invités, tous les auditeurs, j'allais dire, de la place. Monsieur Jody, le sujet vraiment il est intéressant. Et ici, c'est vraiment. C'est à rescapé, monsieur Jody, permettez-moi. Et dire. Dans ce pays où nous sommes nés, où on nous apprend tous à être les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Moi qui vous parle maintenant, là, je vous dis que j'ai fini mes études à l'Isbemanga ici, à la gestion des entreprises. J'ai un master. Parce que là, je vous dis que je suis dans la situation de chômage. C'est là où j'ai donné la raison plutôt à l'invité qu'elle parle de la reconversion. C'est-à-dire qu'il est très important que les gens soient reconvertis. Alors, j'aimerais aller tout droit dans les petits soucis par rapport à l'exposé de l'invité. Quand il nous parle de la cartographie, moi j'aimerais comprendre là-dessus. La cartographie dont tu voulais question ici, est-ce que c'est pour les organismes, mais toujours, parce que quand on parle du chômage dans la ville, dans le pays, c'est pour tout le monde. Mais, vous avez l'organisme qui arrive et ne réside pas moins de 20 personnes, dans les 5, 6, maximum 10 personnes. Alors, maintenant, l'invité nous parle qu'il faut faire la cartographie pour comprendre. Est-ce que c'est pour les organismes, tout le monde est censé chercher le boulot toujours dans les organismes ou bien dans l'administration publique. Et dans l'organisme aussi, il n'y a pas de contrat déjà déterminé. Il y a des petits contrats de 3 mois, 6 mois, une année peut-être très renouvelable et autres. Qu'est-ce que vous venez de dire, papa, là? Qu'est-ce que vous enseignez?
Merci beaucoup.
Monsieur Yodi.
Oui.
Monsieur Yodi, de deux, quel mécanisme mettre en place pour pallier cette situation d'après la parole d'invité? Et pour chuter, monsieur Yodi, pour la reconversion, donc, maintenant, est au centre de notre causerie avec l'invité. Pourquoi est-ce que certains parents, beaucoup de parents qui allaient même durs, je suis en train de réitérer en disant beaucoup de parents ne veulent pas que les enfants, dès qu'ils finissent l'humanité, qu'ils soient directement passés à la formation. Hein? On préfère souvent aller envoyer les enfants peut-être à l'université où ils vont obtenir des titres comme les masters, comme moi je garde maintenant, un titre de master, je suis en train de m'orgueillir, alors je n'ai pas d'emploi. Pourquoi les parents préfèrent au moins...
Et vous avez un master. La fois dernière, vous nous avez dit que vous vendez les samoussas maintenant.
Ah ben oui, c'est ça mon activité.
C'est ça.
Alors que je garde avec moi.
Voilà, c'est la reconversion. Il a fait la reconversion.
Il a fait la reconversion. C'est pour parce oui. qu'il n'y a pas d'emploi.
Il n'y a pas d'emploi.
Vous voyez aussi, parce qu'à l'université...
Oui.
Je vais te citer.
Oui, vous allez. Vous pouvez citer.
Je me suis demandé à l'invité pourquoi est-ce que les parents ne préfèrent pas, dès que l'enfant finit l'humanité directement, on le passe à la centre de formation. Au lieu de lui faire passer d'abord à l'université, pour qu'il obtienne un titre de master, licencié, gradué ou tout. Après, quand il n'y a pas d'emploi, là, on va passer que, bon, dans ces cas, il peut passer, au lieu de passer l'État, il peut peut-être aller dans un centre de formation. Pourquoi c'est ça?
Merci beaucoup.
Une question de curiosité. Une question de curiosité, avant de remettre la parole, M. Jody, quand l'invité nous parle de CV, la composition de CV, je sais que les recruteurs posent leurs yeux sur l'expérience professionnelle, que nous on appelle ex-prof. Alors, maintenant, aujourd'hui, dans les formations de CV, les gens commencent à mettre des fleurs, des tableaux, des par-ci, par-là, et des étagères et autres. Quelle est l'importance de tout ça? Au lieu de passer par les recruteurs, il va tout droit. Il n'a pas besoin de voir, il est peut-être jumelle, tout. Non. Pourquoi c'est là?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Papi Mboyo.
Oui, mais c'est justement, monsieur le journaliste, le problème aussi, c'est l'ignorance, en fait. Les gens ne savent pas, comme quelqu'un l'a dit ici, la transition entre l'université et le monde professionnel. D'où la nécessité de former les gens, de les orienter, de les accompagner. C'est important. C'est pour cela que dans les cadres du centre de formation et de reconversion professionnelle, nous avons lancé un vaste programme de reconversion. C'est-à-dire on va organiser au moins dans 8 villes pilotes. Il y a Lubumbashi, déjà du 9 au 10 octobre, on va organiser la première édition du salon d'orientation et de reconversion professionnelle, où on va apprendre aux gens comment chercher de l'emploi après l'université, la rédaction du nouveau modèle du CV, la lettre de motivation, les techniques pour passer les entretiens d'embauche, la stratégie pour contourner les années d'expérience. Ça, on va organiser du 9 au 10 à Lubumbashi.
Commencez par Lubumbashi.
Après Lubumbashi, ça sera Kolwezi, Kalemie, Kikwit, Kinshasa, Matadi, Kisangani et Kindu. Donc, on va organiser ça dans...
Là, c'est la première phase.
La première phase. Après, voilà, ainsi de suite. Pourquoi c'est important que les gens...
L'objectif, c'est d'atteindre les 26
mais
provinces.
Mais il faudrait que les gens apprennent ça, parce que ce que vous faites ici, c'est un travail intéressant. Vous faites votre part, l'université a fait sa part. On doit aussi accompagner les autres. Alors, je comprends qu'on court...
On n'a plus le temps.
Oui, c'est-à-dire pour participer. Joindre, oui, pour participer, parce qu'après les salons, ça sera des séries de formation. Donc, on peut nous appeler au 082
okay.
53 90 016 082 53 90 016. Vous nous envoyez votre identité et vous indiquez la ville où vous vous trouvez. Comme ça, on vous oriente pour prendre des macarons, participer à cette grande activité de la première édition du salon d'orientation et de reconversion professionnelle.
Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au centre de formation et de reconversion professionnelle. Merci.
Je vous en prie.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Deb Sevita était à la mise en onde, a assuré la mise en onde. Tati Mapoukou et Naomi Moutouki ont assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Paul Badianyama était du côté, c'est lui qui était du côté du direct sur les plateformes digitales des radios au Capi, au micro jeudi Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.